crève l'écran, on crève l'écran, on crève l'écran, on crève l'écran, on crève l'écran.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission On crève l'écran. À l'occasion des quinzaines d'écrans, nous enregistrons cette émission qui sera postée sur le site de la ville et le site du collège La Vallée. Et avec nous, nos fidèles chroniqueurs Maïssa, Louise, Mohamed, David, Rania, Zabibou, Josué, Dylan, Hélène, Camille, Adélaïde, Sarah, Massara et Nouran. Aujourd'hui, dans cette émission, nous vous donnerons quelques infos et nos avis sur ce sujet. Manga, séries, billets d'humeur, outils pratiques pour décrypter l'info, ainsi que des slams. Nous allons vous faire vivre un moment sans images, mais puissant. Laissons donc la place aux chroniqueurs qui balayeront très large. Donc Maïssa, pour notre émission, tu as tout de suite pensé à un manga qui paraît en ce moment, c'est bien ça?
Oui. Quand les réseaux sociaux prennent le contrôle de votre destin. Et si votre vie ne dépendait que de vos followers, Ria la Conte, Jiria, est un manga de Hokusho Shizumu Watanabe. Celui-ci parle d'une prise d'otage par le réseau. 10 000 personnes sont ainsi prisonnières de Ria. La question est, comment s'en échapper? Vous aussi, vous risquez de vous poser la question. Dans ce manga que je vous présente aujourd'hui, il me semble qu'un jeu macabre, virtuel, est présenté, qui impacte la réalité de prouver que les gens, quand leur vie en dépend, ne tiennent plus à toi, te laissent mourir et pleurent sur ta mort. C'est un monde artificiel, un monde d'image dans lequel les gens changent leur apparence physique, ou plutôt cherchent à l'améliorer afin de gagner toujours plus de followers. Parce que lui, le but quand on commence ce jeu, c'est de terminer vivant, ce qui revient à avoir le maximum de followers. Plusieurs thèmes développés dans ce manga ont un rapport avec la thématique de notre émission. Ainsi est par exemple une jeune fille dont l'apparence dans la réalité laisse un peu à désirer, modifie sa photo de profil, ce qui prouve qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière un écran. Cela va même plus loin, car on devine dans cette histoire qu'on ne peut pas non plus connaître la réelle intention des personnes envers vous, dès lors qu'elles se branchent sur le réseau. Autre chose qui est évoquée, les sujets qui attirent le plus de spectateurs. Ainsi, pour sortir du jeu vivant, il y a plusieurs niveaux, dont l'un a pour but de divertir le plus de monde possible. Ce qui revient alors le plus est le sexe et la violence. C'est avec ça que les audiences ne font que grimper. Cela ne vous rappelle rien sur nos écrans? L'impossibilité de préserver son intimité est aussi montrée dans ce manga. Le fait de ne pas pouvoir le préserver mène les personnages joueurs jusqu'à la mort. Et dans notre réalité, cela se traduit déjà, enfin je trouve, par de nombreux traumatismes. Il y a encore un thème qui m'a semblé fondamental dans ce manga, le narcissisme. On peut comprendre que les phénomènes des réseaux sociaux poussent le narcissisme à l'extrême, de même que s'impose la logistique des apparences. Le fait de chercher à plaire, quoi qu'il en coûte, a une main sans distinction. Pour conclure, je voulais attirer votre attention sur un détail esthétique, mais qui a du sens. Sur les tranches des livres, chaque numéro de tome correspond à un symbole de réseau social bien connu, comme par exemple le tome 4 représente le logo de Snapchat.
Avec Camille, nous allons comprendre l'une des raisons qui donne tant de force aux fake news, le media bashing.
Bonjour. Je vais vous expliquer la stratégie politique du moment, le média bashing.
Aujourd'hui, il y a une véritable fracture entre les journalistes et la population. Les Français se méfient des médias. Pour eux, les médias sont des menteurs. Les politiques en jouent et le média bashing, ou dénigrement des médias, devient une véritable stratégie de campagne pour les politiques. S'attaquer aux médias traditionnels est un grand classique dans les affaires politico-financières. Les politiques utilisent les journalistes comme bouc émissaire quand ils sont en difficulté, comme par exemple lors des affaires remettant en cause leur dignité. Les partis extrêmes utilisent cette stratégie du « moi contre le reste du monde » depuis de nombreuses années. Marine Le Pen, présidente du Front National, accuse les médias de prendre parti. Jean-Luc Mélenchon, chef des Insoumis, les considère comme étant la deuxième peau du système. Mais aujourd'hui, tous les partis politiques remettent en cause le système médiatique dans son ensemble. La victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine de 2016 a donné des idées à certains politiques français. Trump est en effet ouvertement en conflit avec les médias. Il se déclare être en guerre contre eux. Pour lui, les journalistes sont les ennemis des citoyens américains. Ainsi, François Fillon, candidat à la présidentielle française de 2017, parle d'une véritable dictature des sondages et des médias. Manuel Valls, ex-premier ministre, retourne les attaques des journalistes contre eux. Selon lui, c'est eux qui sont enfermés dans le système, qui représentaient le système, ce dont les Français ne veulent plus. Plus récemment, Jean-Luc Mélenchon, Laurent Wauquiez et Marine Le Pen ont livré des attaques d'une rare virulence contre la presse et les journalistes suite à la diffusion des déclarations polémiques du président des Républicains, Laurent Wauquiez. Ce dernier se place en victime, il se déclare être la cible d'un déchaînement médiatique surréaliste. Mélenchon et Le Pen le soutiennent, pour eux, la presse est la première ennemie de la liberté d'expression. Mais les médias sont un contre-pouvoir indispensable à la démocratie. Ils n'ont pas qu'un rôle d'informateur, ils se doivent d'avoir une opinion qu'ils transmettent par la suite à la population. Ainsi, en jouant de cette stratégie, on peut dire que les politiques remettent en cause le droit à l'information du citoyen, la liberté d'expression, mais aussi la démocratie. Les Français sont confortés dans leur haine envers les médias traditionnels et se tournent de plus en plus vers les réseaux sociaux et Internet, où l'information est difficile à légitimer et à contrôler. Mais comment les journalistes peuvent-ils transmettre de véritables informations aux citoyens si ces derniers n'ont plus confiance en eux ? La population peut-elle se référer uniquement à Internet pour se renseigner sur l'actualité ? Ces derniers points sont de véritables enjeux pour le futur qu'il est important de résoudre.
Alors, selon Adélaïde, les fake news se rapprochent des virus.
Je vais donc vous présenter ce que je pense de la manière dont se répandent les fake news aujourd'hui. Comme des sortes de virus qui passent d'individu en individu, d'autant plus facilement que les moyens technologiques actuels nous le permettent et que les usages des hommes et des femmes politiques aujourd'hui nous y incitent. Les réseaux sociaux remplacent de plus en plus les médias traditionnels, notamment auprès de la jeune génération. Ceux-ci jouent un rôle important dans la diffusion des informations autour du globe. Grâce à ceux-ci, une photo ou une information circule de manière quasiment instantanée. Le principe des réseaux sociaux est de pouvoir partager avec ses amis et sa communauté les nombreuses informations que l'on reçoit. Ce qui veut dire qu'au moment où on publie un tweet, avec les partages successifs, celui-ci peut facilement faire le tour du monde en quelques heures. Il passe ainsi de main en main, très vite, très facilement, sans filtre, par simple mise en contact. Tout le monde peut sur les réseaux sociaux donner son avis et apporter des informations sur un sujet, mais quand on voit une info, on ne sait pas si elle est vraie ou non, car il n'y a aucun moyen de connaître la source de l'info, ou plutôt parce que la forme même de l'info ne nous pousse pas à aller la vérifier. Elle est arrivée vite jusqu'à nous, et il faut qu'elle reparte tout aussi vite vers ceux qu'elle n'a pas encore atteints. Récemment, par exemple, une jeune femme a décidé d'ouvrir une pétition après avoir vu une photo d'un poney abandonné après le salon de l'agriculture. 300 personnes l'ont signée avant que l'on apprenne que cette info avait en fait été publiée sur la page d'un journal satirique. Cet article, que de nombreuses personnes ont cru, a été partagé plus de 3000 fois en 2 jours. Cette confusion montre bien qu'il est très difficile de savoir d'où part l'info, et encore une fois, que la manière dont elle nous parvient ne nous incite pas à mettre en action notre esprit critique, et que sa nature même ne nous pousse pas non plus. En effet, une information comme celle-ci fait appel à la sensibilité des personnes, d'autres font le buzz, étonnent, et circulent alors presque de manière virale, parce que souvent, elles choquent, émeuvent ou étonnent les personnes à qui elles sont destinées. C'est une des raisons pour laquelle les réseaux sociaux ne peuvent pas remplacer un journaliste. Le principal travail de celui-ci est certes de diffuser une info, mais il y a tout un travail de vérification en amont. Nous le reverrons plus tard avec les interventions de Nouran et de Massara, qui introduiront l'interview de Claire Pierre, une journaliste. Aucune info n'est publiée si elle n'est pas vraie, c'est-à-dire vérifiée et vérifiable. Bien sûr, l'erreur existe, mais le but est d'en faire le moins possible. De nombreux journaux et journalistes sont d'ailleurs aujourd'hui présents sur les réseaux sociaux et continuent leur travail sur ce nouveau support. Si les journalistes sont présents sur la toile, les politiques aussi. Ils ont une volonté de s'adresser directement à leur électorat, sans passer par les médias traditionnels. Ils influent donc directement l'opinion des gens. Et cela alimente leur notoriété et leur influence. Ainsi, et par exemple, lors de la campagne présidentielle de 2017, Sébastien Foy, un élu du parti Les Républicains et soutien de François Fillon, a publié une photo d'un meeting d'Emmanuel Macron où l'on voyait la moitié des sièges inoccupés. Cette photo avait été en fait prise lors d'un meeting de François Fillon lui-même par le journaliste Hugo Clément. C'est d'ailleurs ce journaliste qui a dénoncé cette mascarade sur son propre compte. Pour conclure, je reviendrai sur le fait que tout le monde a eu au moins une fois envie de partager quelque chose. Une info, une vidéo, une photo, une citation, enfin quelque chose qui nous avait alors interpellés. Cela veut-il dire que nous sommes tous contaminés ? Quel contrôle pouvons-nous avoir, à notre échelle, sur l'info qui circule ? Je laisse la question en suspens, faisant appel à votre propre esprit critique.
Mesdames et messieurs, veuillez applaudir David, qui va nous présenter son slam.
Lâche-moi cette manette et pense à ton avenir. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Ta mère aimerait tellement que tu sois épanoui. Ne pas faire ce que t'aimes pourrait vraiment te nuire. On ne te force pas, mais choisis la bonne voie, que ce soit pour toi ou pour tes parents. Ils aimeraient tellement que tu sois respectable. Comme on dit, tu peux reprendre ton cartable. Comme on dit, il n'est pas trop tard. Imagine-toi dans 10 ans et dis-moi ce que tu vois. Et peut-être dans 10 ans, tu repenseras à moi. Demande-toi ce que j'ai changé dans ta vie. Et quand tu seras posé, tu pourras reprendre la partie.
Et la parole est maintenant à Louise qui va nous alerter sur l'utilisation par les hommes politiques des fake news.
Oui, tout à fait, bonjour, sur le thème des fake news. Alors les fake news, certains s'en saisissent et jouent avec, comme le fait le très controversé Donald Trump. Non content d'avoir popularisé ce terme, il est également à l'origine des fake news awards. En nommant de manière très subjective les médias les moins fiables, selon lui, il lance une nouvelle attaque contre les médias et les journalistes, qu'il qualifie non sans gêne d'ennemis du peuple. En tête de classement, la CNN, suivie du New York Times, du Washington Post et enfin de Newsweek. Tiens, le Washington Post, c'est justement le journal qui, le 10 janvier, a publié un article ahurissant sur la véracité des propos du locataire de la Maison Blanche. On y apprend que la rédaction du journal a comptabilisé en 355 jours de mandat 2001 mensonges ou fausses informations, les fake news justement, après avoir passé au crible chacune des déclarations du président pendant plus d'un an. Bon, ce qui nous donne une moyenne d'environ 5,6 fake news par jour. Et pour le coup, c'est pas une fake news. Il est vrai qu'avec Trump, on est loin de la parole présidentielle rare prônée par son homologue français actuel. De plus, Donald Trump veut jouer avec l'air du temps et véhicule quotidiennement ses idées depuis son compte Twitter. Il peut en effet se targuer d'être l'une des personnalités politiques les plus suivies, avec près de 50 millions d'abonnés et des tweets quotidiens. Bon, d'ailleurs bourré de points d'exclamation et de majuscules, mais passons. Il est donc légitime de se demander quel impact ces prises de parole intempestives et incontrôlées peuvent avoir sur son auditoire. C'est vrai que beaucoup de personnes sont susceptibles de tomber dans le panneau, tant certaines contrefaçons paraissent réelles. Et une fois postée, l'information peut très vite faire le tour de la galaxie Internet et même avoir un impact sur l'opinion publique. On voit donc bien l'influence que peuvent avoir les réseaux sociaux dans la diffusion d'informations et la propagation de contenus pas toujours vérifiés. D'autant plus que, d'après une très récente étude parue dans la revue Science, les fake news se propagent plus rapidement que les vraies informations sur les réseaux sociaux selon les chercheurs du MIT. Les vraies informations mettraient 6 fois plus de temps que les fausses informations pour atteindre 1500 personnes. On comprend donc bien la nécessité d'agir juridiquement pour réglementer et stopper la diffusion d'informations erronées. Justement, la première ébauche de loi sur les fake news est actuellement en discussion. En période électorale, les contenus potentiellement sponsorisés devraient subir une procédure d'urgence pour supprimer leur contenu lorsqu'on pense qu'il s'agit d'une fake news. Ce projet fait suite à une année marquée par les élections présidentielles à la fois américaines et françaises. Par exemple, la Russie est soupçonnée d'avoir manipulé l'opinion publique en sponsorisant des contenus contre Hillary Clinton pour impacter l'élection et soutenir Trump. Quant à Emmanuel Macron, il estime également avoir été victime d'articles calomnieux et infondés pendant sa campagne. Mais l'applicabilité de cette loi française pose question, car les problèmes dépassent les frontières. Par exemple, comment contrôler l'achat de contenus sponsorisés depuis l'étranger? Et aussi, comment savoir si un compte Facebook qui diffuse des fake news est bien français? De plus, certains craignent une restriction de la liberté de la presse et d'expression. Et si, par exemple, durant la campagne française, l'affaire Fillon avait fait l'objet d'une procédure d'urgence pour être étouffée sans avoir eu la preuve sur la véracité des propos? Beaucoup de questions, on le voit, qui trouveront sûrement réponse dans quelques mois. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, checkez vos sources.
Bonjour messieurs. Alors, aujourd'hui, de quel sujet allez-vous nous parler? De YouTube, c'est bien ça?
Bonjour Mohamed. Tu vas donc nous présenter ta chaîne YouTube, car tu es un YouTuber actif.
Bon, pour ceux qui ont plus de 30 ans, un YouTuber, ce n'est pas une nouvelle recette de hamburger. C'est un vidéaste qui réalise et diffuse via la plateforme d'hébergement Web YouTube des vidéos sur le sujet et dans la forme de son choix. Depuis quelques années, cette activité a pris énormément d'ampleur. Des vedettes ont émergé comme Cyprien Norman par exemple, et de plus en plus de personnes, de plus en plus de jeunes postent des vidéos plus ou moins créatives de tutos sur les sujets aussi divers que les soins esthétiques. Les jeux vidéo, la cuisine tournent surtout autour de la pop culture. Les youtubeurs écrivent, dessinent un storyboard, jouant, filmer, enregistrant, montrant, diffusant, promouvant, etc. Bon, il faut dire que poster une vidéo sur YouTube, c'est facile. Mais devenir youtubeur, c'est quand même une autre histoire.
Mohamed va nous aider à le comprendre. Pour certains, c'est même un métier à part entière. Comme. Donc, Mohamed, peux-tu nous dire comment, toi, tu en es venu à te lancer ?
Il y a longtemps, je regardais beaucoup de vidéos et j'ai eu l'idée, à un moment donné, de faire une chaîne YouTube. J'ai donc fait ma chaîne quand j'avais 9 ans. J'ai un logo avec une arène de Clash Royale et Roblox, avec une bannière Minecraft, Roblox et Clash Royale, avec un paysage Minecraft.
Ok, Mohamed. Et dis-nous ce qui te motive à faire cette chaîne YouTube.
Eh bien, avant tout, j'aime gagner des abonnés. Si j'en gagne, ça montre que j'arrive à leur faire plaisir en faisant des vidéos intéressantes et surtout de qualité.
Et qu'est-ce que tu appelles des vidéos de qualité ?
Au début, je n'avais pas une très bonne qualité de vidéo. Mais au fur et à mesure, j'ai amélioré mes outils de travail et mes méthodes aussi. J'ai pu avoir un meilleur téléphone et au début, c'était important. Parce que c'était avec le téléphone que je filmais l'écran et ce qui se passait pour ensuite poster la vidéo sur ma chaîne. Mais après, j'ai appris à enregistrer directement l'activité de l'écran. C'était plus pratique et beaucoup mieux pour la qualité de la vidéo. La qualité du PC est aussi très importante. L'écran doit être de bonne taille, la résolution puissante et le nombre de RAM important également.
Et est-ce que tu as dû chercher ou inventer d'autres outils pour d'autres méthodes ? Ou d'autres méthodes, pardon.
En fait, c'est tout un gros programme. Les outils, ça ne fait pas tout. Je regarde aussi d'autres youtubeurs pour m'inspirer ou m'améliorer. Je consulte des tutoriels aussi quand j'ai envie de reprendre des effets ou des animations que je ne maîtrise pas encore. Concrètement, quand je décide à faire une vidéo, je prépare le jeu d'abord, puis je prépare le logiciel d'enregistrement. Et je lance l'enregistrement, je fais mon introduction, puis je commence à jouer. Quand je décide que ça suffit, j'arrête de filmer et je commence le montage. Et seulement après toutes ces étapes, et surtout après le montage, que je partage la vidéo sur YouTube.
YouTube attire aujourd'hui plus d'1,3 milliard d'utilisateurs réguliers qui regardent près de 5 milliards de clips par jour. Ce que tu nous montres, Mohamed, et nous t'en remercions, c'est que la force de YouTube, notamment, c'est de nous avoir donné la parole à vous. Internautes, c'est vous-même qui produisez le contenu. C'est vous-même qui proposez au monde ce que vous voulez dire. La parole de chacun peut avoir une place sur ces plateformes. C'est là que des choses peuvent se mettre en place. Une créativité génératrice d'apprentissage, une certaine façon de faire vivre la démocratie des questions, de respect, de tolérance, de rencontre de l'autre, sont aussi rendues vivantes. Mais c'est aussi là que des questions se posent, notamment quant à la question financière, qui gagne de l'argent et comment de l'argent est-il généré. Ce sont des questions à se poser dès lors que l'on donne son temps, de son imagination, de son esprit critique, de son ingéniosité pour diffuser et regarder une vidéo.
On crève l'écran, on crève l'écran, on crève l'écran, on crève l'écran, on crève l'écran.
Avec Rania et Zabibou, nous allons maintenant nous demander ce que nous font les écrans et ce qu'ils font sur les enfants.
Bonsoir, alors moi je m'appelle Rania.
Et moi Zabibou et nous sommes en terminale S.
Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui nous tient à cœur, les écrans.
Nous nous intéresserons plus précisément au rapport que les enfants ont avec ceux-ci, puis nous aborderons le sujet des fake news.
En effet, les écrans sont omniprésents dans notre quotidien, que l'on soit adulte, adolescent ou même enfant.
On se demandera donc si on doit bannir les écrans chez les enfants ou si dans une certaine mesure ils peuvent les utiliser.
Alors moi, Rania, je suis contre car je trouve que c'est pas bien pour les enfants, c'est un mauvais impact sur leur santé. En effet, il y a une anomalie qui se crée, l'autisme. C'est-à-dire que l'enfant va moins obéir à ses parents, ni répondre, et encore moins lorsqu'on l'interpelle par son propre prénom. Ensuite, ça va provoquer une augmentation de l'obésité. C'est-à-dire que l'enfant va être plus devant son écran qu'en activité physique. D'après le site Passeport Santé, Sandrine Lioré raconte que le temps passé devant un écran est associé à des réflexes alimentaires moins sains. En effet, les enfants sont plus en contact avec des aliments de type fast-food à partir de 2 ans. J'ajoute aussi que les écrans, notamment les téléphones, émettent une lumière dite bleue et cette lumière est extrêmement nocive pour les yeux, surtout pour les enfants de moins de 14 ans, car leur cristallin ne filtre pas aussi bien que celui des adultes.
Oui, mais certaines marques proposent des téléphones qui vont émettre des lumières rouges, donc non dangereuses pour notre santé et notre sommeil. En plus de ça, il y a de plus en plus de groupes qui proposent des lunettes de photoprotection sélective, protégeant nos yeux de cette lumière. Et d'après l'ophtalmologiste Petra Kuntz, dans le futur, il serait utile également que tous les écrans aient des filtres intégrés, tout comme les ampoules. Tu vois qu'il y a beaucoup de projets mis en place pour atténuer cet inconvénient.
Comme tu l'as dit, certaines marques proposent des téléphones émettant des lumières rouges pour le bien de nos yeux, mais en y réfléchissant, c'est pour augmenter le temps passé devant son écran et ça ne change en rien le fait que les gens restent accrochés devant.
Je suis un peu d'accord avec toi, ça peut être dangereux pour la santé de l'enfant. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas complètement éliminer les écrans de leur vie, et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les écrans, que ce soit télévision, téléphone ou autre, sont le résultat d'une évolution. Et donc, ce serait retourner dans le passé et ne pas prendre en compte cette évolution pour eux.
Oui, mais nos parents n'ont pas vécu avec et pourtant ils s'en sortent bien et n'ont eu aucun manque concernant la technologie.
C'est vrai, mais nous devons évoluer et les écrans font partie de cette évolution. On a accès aux connaissances plus facilement, on peut avoir des documents de façon plus accessible et l'utilisation de certains jeux vidéo ou le fait de regarder certains programmes télé stimule certaines parties du cerveau et aide donc à mieux réfléchir. Il ne faut donc pas interdire les écrans à ses enfants, mais plutôt prévenir des dangers. Il ne faut pas complètement les laisser livrer à lui-même, mais contrôler ce qu'il regarde et ce qu'il fait.
J'admets qu'il ne faut pas être totalement fermé à l'idée que les enfants puissent utiliser les écrans, mais nous devons d'être beaucoup plus vigilants, notamment avec la nouvelle mode ces temps-ci, les fake news.
Les fake news, c'est quoi ?
Une fake news est une fausse information ou une information truquée délibérément. C'est-à-dire qu'elles ont pour but de tromper la personne se trouvant face à l'information. Les fake news existent déjà depuis plusieurs années, mais récemment, elles ont pris une grande ampleur.
En effet, elles posent surtout problème parce qu'elles sont très bien faites et difficiles à distinguer des vraies informations. Car on est dans une société avec un flux massif d'informations et on ne prend pas le temps de vérifier la véracité de celles-ci. On se contente seulement de croire et partager. Le nombre de partages incite aussi les gens à croire plus facilement.
Pour savoir comment faire si on est face à une fake news, il y a plusieurs possibilités. Prenons des exemples. Certaines personnes peuvent faire croire qu'il y a de la neige à Hawaï, mais vu qu'on est loin de cette île, on ne peut pas savoir si c'est vrai ou pas. C'est pour cela que l'application Google Street View existe. Elle permet de voir ce qui se passe dans n'importe quel coin du monde en direct.
Un autre exemple. En Turquie, certains articles ont affirmé qu'un attentat a été commis et qu'une tour a été détruite. Mais pourtant, lorsqu'on va sur Google Street View, on voit que la tour est toujours présente et qu'il n'y a donc jamais eu d'attentat.
Il y a un autre site nommé DataViewer, développé par Amnesty International, qui permet de vérifier si une vidéo a été publiée ailleurs et sur un autre sujet, par exemple. Enfin, il existe aussi Decodex, un outil développé par le journal Le Monde, qui classe les sites et les sources par degré de fiabilité.
Donc, il y a des dangers, mais aussi des moyens de les prévenir, pourvu qu'on le prenne le temps d'activer son esprit critique.
Et maintenant, place à l'interview de Massara, présentée par Nouren.
Un journaliste doit être très curieux. Il ne crée pas l'info, ne la construit pas non plus. Il se rend sur le terrain, va chercher des sources de différentes provenances, comme des sites web, des articles, des images, des vidéos et des photos. Il va surtout les comparer, les vérifier et les confirmer. Après avoir vérifié l'information, il la fait éditer, que ce soit sur une chaîne télévisée ou un journal papier. Il a des précautions à prendre dans ce métier. Il ne faut pas diffuser l'exclusivité n'importe comment. Il faut que ce soit compréhensible pour tout le monde, ou pour le public visé. Et donc, il faut que la forme soit adaptée et, si possible, écrite dans un langage soutenu. Je tenais aussi à rappeler avant l'interview de Claire Pierre, journaliste, quelques définitions de base, celles d'influenceur, de lanceur d'alerte et de journaliste. Peut-être que ne savez-vous pas précisément ce que cela signifie. Influenceur. Je suis allée chercher la définition d'influence tout simplement. Pouvoir social et politique de quelqu'un, d'un groupe qui leur permet d'agir sur le cours des événements, des décisions prises, etc. Un journaliste est une personne qui a pour occupation régulière et principale l'exercice du journalisme dans un ou plusieurs organes de presse écrite ou audiovisuelle. Un journaliste est titulaire de la carte d'identité professionnelle. Autre chose aussi importante à savoir, tout journaliste peut se prévaloir de la clause de conscience. Pour le lanceur d'alerte, j'ai consulté la définition de ce qu'est une alerte. En l'occurrence, il s'agit d'un signal qui prévient d'un danger imminent. Je pense qu'il n'est pas besoin d'en dire davantage. Je cède la parole à Massara.
Quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon journaliste ?
Bonsoir, déjà je m'appelle Claire Pierre. Bonsoir. Je suis journaliste depuis février 1994. J'ai travaillé essentiellement en presse écrite, régionale et nationale également. Donc les qualités principales d'un bon journaliste, en fait, c'est la curiosité, l'écoute, la bienveillance et en même temps un goût prononcé pour la justice.
Comment travaille un journaliste ?
Alors un journaliste, déjà dans la définition, c'est un porte-parole. Il a connaissance des informations et son travail, avant de la divulguer, c'est pas une course au scoop, c'est d'abord de la vérifier. Et on doit croiser 3 fois les sources avant de publier une information.
Est-ce qu'il existe différents types d'informations ?
Non, il y a une information et dans notre société, on a la chance d'avoir accès à cette information. Il faut en profiter.
Quel est ton rapport avec les images en termes d'information ?
Alors l'image est une information, mais il faut se méfier des images parce qu'on peut les recadrer, on peut changer la légende, on peut détourner le sens d'une image, mais c'est une information, une image.
Ce métier est-il risqué ? Je veux dire, peut-il y avoir des représailles si l'on apprend quel journaliste a divulgué telle information ?
Bien sûr, il y a des pressions sociales, politiques, tous les jours dans le métier de journaliste. Mais les journalistes les plus exposés, ce sont les grands reporters, ceux qui couvrent les conflits.
Quelle est alors la différence entre un journaliste et un influenceur, selon toi ?
Elle est fondamentale. Un journaliste, il ne détient pas la vérité, il diffuse une information qu'il a vérifiée. Un influenceur, il cherche à convaincre.
Merci beaucoup.
Alors Josué, et ta théorie du complot, tu vas nous le divulguer ou pas ?
Alors pour commencer, bonjour et merci de me donner la parole. Alors parlons un peu de fake news un peu plus folklorique. Pour commencer, j'aimerais dire que l'humain, en tout temps, a toujours été fasciné par tout ce qui peut être qualifié d'occulte. Dans l'esprit, occulte rime souvent avec magie noire, secte, enfin ce genre de choses. En réalité, et je vais briser des rêves, occulte signifie en réalité caché ou ce qui ne peut être vu. De trop nombreuses fois, j'ai entendu ou lu l'expression « société occulte »,« pouvoir occulte », etc. Ces expressions très kitsch ne veulent en réalité pas dire grand-chose. Ce terme a été vulgarisé et accolé à de trop nombreux mots pour dire des choses qu'il ne veut pas dire. Mais qu'entend-on par théorie du complot, néologisme de conspirationniste ou complotisme pour les intimes ? Ces termes barbares ramènent en réalité à des théories donnant une certaine vision de l'histoire comme étant le fruit d'organisations occultes. Où les trouve-t-on ? Du fait des avancées informatiques, aux médias traditionnels que sont les supports papier et les radios se sont ajoutés pléthore de médias alternatifs. Elles peuvent donc être trouvées dans les différentes succursales de l'info, articles web et surtout réseaux sociaux. Or, ils sont parfaitement légaux. Ces médias alternatifs, qui se trouvent le plus souvent sur la toile infinie d'Internet, jouissent en effet de la loi du 29 juillet 1881 visant à la liberté de la presse. Ces théories sont le plus souvent cohérentes, c'est pour cela qu'elles ont un si grand succès. Ce succès se base également sur un trait spécifique à l'homme, chercher à dévier. Logique du « nous vivons dans une époque où l'information fuse, la vérité doit sortir, donc sortons-la ». Tout le monde cherche une vérité, et si c'est pas celle de tout le monde, c'est encore mieux. Alors je vais vous dresser une liste des théories les plus célèbres. Alors pour commencer, l'existence des Illuminati. Tout le monde a déjà entendu une fois ce mot, je pense. Il s'agirait d'un groupuscule qui manipulerait tous les étages de la société, le showbiz, la politique, la culture, dans le but d'instaurer un nouvel ordre mondial, sans religion, sans pays, sans guerre, où chaque acte de citoyen serait surveillé 24 heures sur 24. Là, on peut remercier George Orwell. Pour une deuxième théorie, par exemple, serait Apollo 11. C'est le fait que la première navette qui aurait aluni sur la Lune en 69 ne serait jamais, en fait, en réalité, allée sur la Lune. Les détracteurs d'Apollo 11 se basent surtout sur la photo. Ils insinueraient en réalité que la photo aurait été faite en studio et que certains individus accusent la NASA et le gouvernement américain de mentir. Tout cela pour gagner la course pour la Lune, excusez-moi. Une troisième théorie serait que le 11 septembre aurait été téléguidé par le gouvernement américain pour avoir un motif d'envahir l'Irak et se procurer le pétrole, accessoirement. La manière dont les tours se sont effondrées laisse à penser que les bombes auraient explosé à l'intérieur des tours en réalité. Et ce qui m'étonne, c'est que des milliers de personnes travaillent dans ces tours et personne n'a rien remarqué. C'est une bombe en fait. Avant-dernière théorie, Hitler ne serait pas mort dans son bunker. Certains gens disent que Hitler se serait réfugié en Argentine et serait mort en 1962. Cette théorie est corroborée par de nombreux témoignages de locaux relatés dans plusieurs livres. Et la première personne à avoir évoqué cette théorie était Staline en 1945. Peut-être un parent caché de Donald Trump. Et dernière théorie et non des moindres, la Terre est plate. Pas la peine d'étayer, je pense que tout est dans le nom. Ce qui me choque, c'est 9% des Français en sont persuadés. En dehors de la France, il y a aussi Kyrie Irving, une superstar du ballon orange aux USA, le basket en l'occurrence. Donc, en effet, dit comme ça, ça sème le doute, et c'est un peu le but de ceux qui balancent ces théories. Je ne peux pas vous dire que ces théories sont fausses, moi-même je les trouve crédibles. Certaines se basent sur des éléments appartenant au domaine du vrai et approuvé. Par exemple, les Illuminati. Ils ont réellement existé, qu'on le veuille ou non, et ça s'appelait les Illuminés de Bavière, une société secrète fondée en 1776 et dissoute en 1785. Apollo 11, les détracteurs d'Apollo 11 en gros, ceux qui disent que la photo aurait été tournée en studio s'appuient également sur le fait que le drapeau américain flottait, qu'il était tendu et en réalité que sur la Lune il n'y a pas de vent. Et la NASA a tout simplement répondu que le drapeau, enfin la toile du drapeau était tenue par une tige en métal. C'est aussi bête que ça. Ensuite, pour le 11 septembre, là on peut pas dire grand chose à part le fait que les tours se sont en effet effondrées d'une manière un peu étrange et qu'il y a eu une mauvaise qualité vidéo surtout, que les vidéos ont surtout été amateurs lors de l'impact. Alors ce que je peux me permettre, c'est de vous inviter à cultiver votre esprit critique. Ces théories sont pour la plupart irréfutables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les prouver ni leur contraire. Et comme beaucoup de fake news, elles sont crédibles. Elles soulèvent quelque chose de très important à chacun de nous, le doute. Mon mot de la fin serait que nous vivons dans un pays de liberté, donc libre à chacun d'y croire ou non. Mais avant de choisir de le faire ou non, réfléchissez, cherchez, pesez le pour et le contre. Ne suivez pas automatiquement le chemin de l'auteur de ces articles, servez-vous-en comme une feuille blanche et tracez-y le vôtre.
Et voici un slam réalisé par Dylan. Alors Dylan, comment te sens-tu ?
Je me sens un peu... J'ai un peu la pression, j'ai un peu stressé.
Es-tu prêt ?
Il faut l'être, de toute façon.
Mesdames et messieurs, Dylan pour son slam.
En fait, t'avais raison, la télé, ça rembête. Et si tu persévères, tu verras le soleil. La note et les appels répétés du collège. Et tu te faisais frapper par ta mère. Ferme les yeux, allez, réveille-toi. Sors une feuille et révise-moi tout ça. À ce que je vois, l'histoire n'est pas acquise. Et mes papas de l'anglais, je sais, c'est encore pire. Imagine-toi dans 10 ans avec des marmots. Faut leur dire que t'as raté, t'auras pas les mots. Oh, oh.
Bravo. Connaissez-vous la série TV Black Mirrors ? Je ne vous en dirai pas plus et je vous laisse avec Hélène qui va méditer tout ça.
Merci. Imaginez si nous étions dans un monde où tout est technologique. On va parler d'une série Black Mirror. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette série est réalisée par Charlie Brooker. Cet homme a eu l'insolite idée de faire une série où dans la plupart des épisodes, on traite un usage abusif des technologies. Dans un des épisodes, nous sommes dans la peau d'un homme qui vit dans un monde où absolument tout est environné par les technologies et le numérique. En bref, Bingham Madsen, de son surnom Bing, vit dans une routine insupportable. Il se lève, réveillé par un coq numérique, paye pour faire sa toilette, paye pour manger, etc. Et pour restaurer son crédit, il est condamné à pédaler toute la journée pour alimenter en énergie les écrans qui l'enferment. Et pourquoi pédale-t-il toute la journée ? Eh bien pour payer sa vie quotidienne. On gagne des points de vie en pédalant encore et toujours, car dans ce monde, la vie ne tient qu'à son statut social, qui lui-même en dépend de son nombre de mérites. Un jour, Bing rencontre une fille, Abby, qui a une voix resplendissante. Tout de suite, il fait le lien avec une publicité qui passe à longueur de journée sur les écrans pour un jeu télévisé qui permet de faire découvrir les nouvelles vedettes. Il faut 15 millions de points, ou pour être plus précis, de mérites pour y participer. Abby ne dispose pas de cette somme et Bing fait quelque chose d'exceptionnel dans ce monde où les relations humaines sont réduites. Il décide d'offrir 15 millions de mérites à Abby. Elle tente sa chance, mais ne ravit les juges qu'à moitié. Comme c'est une femme rayonnante au physique avantageux, les juges lui posent un dilemme. Devenir actrice dans des pubs pornographiques ou retourner pédaler sur son vélo. Son choix, trahir son rêve ou trahir le sacrifice de Bing. Sous l'effet d'une drogue qui rend docile, que les organisateurs lui ont fait boire avant d'entrer en scène, elle s'oriente vers le cinéma. Le drame se produit lorsque Bing apprend la nouvelle. En pleine partie de jeu vidéo, une pub s'impose et il distingue Abby dans son nouveau rôle. Il est excédé. Au comble du désespoir et de la colère, il en vient à se fracasser la tête contre l'écran, pris de haine contre ce système déshumanisant. J'ai choisi de parler de cet épisode sans vous en dire trop parce que selon moi, il révèle un cercle vicieux dans lequel nous sommes déjà piégés. Cet épisode anticipe la vie que l'on pourra avoir si les technologies prenaient une place plus importante dans notre vie. Dans cet épisode, il y a une terrible routine. Faire du vélo, gaspiller de l'argent, donc devoir refaire du vélo. C'est comme dans la vraie vie. Tu te réveilles, écran. Tu manges, écran. Avant de dormir, écran. En gros, matin, midi, soir, écran. Nous sommes tellement sur des écrans que nous ne regardons même plus le monde extérieur. Nos regards ne se détachent pas de nos écrans. Mentalement, le monde est clos. Notre cerveau est focalisé, je dirais même hypnotisé par les écrans, les pubs, la violence, etc. Pour terminer, je lance un questionnement. Que se passerait-il si nous arrêtions de nous faire influencer? Si on faisait plus attention au monde, à ce qui nous entoure? Si on avait plus de réflexion, de silence? À méditer.
Je remercie donc le public de nous avoir écoutés et de nous avoir suivis. Merci aux auditeurs, merci aux chroniqueurs, merci à Marie du service jeunesse d'Épinay-sous-Sénart, merci pour le staff technique et merci à Madame Rémy qui nous a suivis et aidés dans cette expérience. Et j'espère qu'on se retrouvera peut-être dans une nouvelle émission. À bientôt.
Et merci à notre douce Laetitia pour sa concentration et ses présentations.
Bravo à tous, c'est fini.